L'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, 29e édition du 5 au 14 juillet. Hommage au chef d'orchestre Michel Plasson, et bien c'est sur Accent 4 et c'est maintenant générique.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir chez vous ce premier numéro de l'Opus Festival de Colmar. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michel Plasson et François-René Duchâble. Au cours de cette 29e édition du Festival de musique de Colmar, maître, vous dirigerez deux concerts à la tête de l'Orchestre National Philharmonique de Russie. Ce soir, à 20h, coup d'envoi du festival, vous interpréterez Henri Dutilleux et Maurice Ravel avec la complicité de votre ami François-René Duchâble. Et samedi, vous aurez devant vous la partition de la Damnation de Faust d'Hector Berlioz. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté tous les deux cette invitation d'Accent 4.
Bonjour.
La première des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Michel Plasson. Un enregistrement réalisé à la Halle aux Grains de Toulouse en 1986. Et je précise, j'ai fait une petite erreur. Les concerts d'ouverture ce soir et de samedi, bien sûr, c'est à 21h, comme tous les concerts symphoniques du Festival de musique de Colmar. Maître Vladimir Spivakov, directeur artistique du Festival de Colmar, a tenu à vous dédier cette 29e édition un bel hommage pour un festival qui a sans doute dans votre cœur une place tout à fait particulière.
Oui, bien sûr, parce que je suis venu bien des fois. Je ne me rappelle pas exactement combien de fois, mais je suis venu plusieurs fois en tous les cas, avec des orchestres différents, surtout avec l'orchestre du Capitole de Toulouse à l'époque, et sans doute une fois ou deux avec l'orchestre de Russie.
Et l'orchestre de Paris aussi.
Et l'orchestre de Paris ?
Oui, vous aviez fait une première de Brahms.
Ah, je n'ai plus pas le souvenir précis. Et bon, je sais que ce festival est là depuis longtemps. Et j'ai été particulièrement, comme dirait Berlioz, touché au cœur parce que Vladimir Spivakov, qui était un grand musicien russe et pour lequel j'ai une grande estime, et qui était un violoniste extraordinaire et un musicien, avoir l'hommage d'un grand musicien russe, attendu que je n'ai jamais eu aucun hommage d'aucune sorte de mon pays, sinon d'avoir beaucoup de décorations. Ça ne me déplaît pas. Il y a un moment où les honneurs vous rattrapent, comme disait Madame Yourcenar, mais voilà, la situation est ainsi et je suis très touché. Et j'ai préparé un peu l'orchestre qui était absolument musicalement très, très bon, très... Mais quand même avec une distance entre leur répertoire magnifique et leur musique, et la musique française telle qu'elle est avec Dutilleux, telle qu'elle est avec Ravel, telle qu'elle est avec Berlioz. Et comme la France a perdu toutes ses écoles, et avec la satisfaction qu'elle éprouve à ne pas se condenser sur ce qu'elle possède, mais se condenser sur d'autres choses. Et on a perdu le basson, qui est transformé avec le fagot, on a perdu l'école d'archet, on a perdu tout notre répertoire, puisqu'on n'en joue presque pas. Et la Russie, qui est un peuple éminemment musical, comme l'Allemagne, profondément et différemment, ça me touche beaucoup d'être ici et d'apporter, si vous voulez, d'essayer d'apporter moi-même un peu d'un parfum qui n'est pas exactement le leur. Et puis quand j'ai dit à Vladimir Spivakov que je voulais jouer avec un grand soliste français, je ne pouvais pas imaginer ne pas jouer avec François René, qui a joué pour moi tellement de fois, pour lequel j'ai... Vous savez, Rubinstein disait, il y a très longtemps, et m'a dit à moi, Arthur Rubinstein, pour lequel j'ai fait son dernier concert en France avec Schumann, il m'a dit, tu sais, il y a un grand pianiste français. J'ai dit, mais qui met François René Duchamp? Rubinstein, voilà. Seulement, la France, et lui-même d'ailleurs, avec son caractère et sa personnalité extraordinaire, a choisi des chemins différents. Et pour s'exprimer, je lui suis très reconnaissant de jouer avec moi.
Oui, François René, on sait que vous me l'aviez annoncé il y a très longtemps lors d'une interview, d'ailleurs c'était pour un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, que vous alliez arrêter de cette imposture d'une certaine manière. Et pour Maître Plasson, vous avez accepté de revenir à la tradition du concert. C'est aussi un bel hommage que vous rendez à Michel Plasson.
Oui, je ne pouvais pas refuser son invitation, parce que c'est l'amitié, la tendresse, l'admiration. Et puis j'aime bien, comme je vous disais tout à l'heure hors interview, revenir sur les lieux du crime, si je puis dire. Mais ce n'était pas un crime, c'était un bonheur. Ici, il y a 15 ans, presque jour pour jour, nous avons joué dans la même salle, dans la même ville, dans le même festival, les deux concertos de Ravel. C'était un moment très fort dans ma fin de carrière passée. Et pour moi, c'est aussi faire le bilan sur toutes mes années et puis tout ce qu'on a vécu ensemble en amitié, hors musique, depuis que... Finalement, on est devenu plus proche depuis qu'on ne joue plus ensemble. Puisque je passe souvent voir Michel dans le sud de la France.
Avec les années, les choses, comme le vin, les choses, l'amitié et l'amour deviennent plus forts.
Les années et les ânes.
Et Nazan, parce que François René m'a offert l'année Berlioz, un âne dont le prénom est Hector. C'est un très bel âne.
Et ce sont
très
des...
intelligent, très pensif, oui, voilà. Très, très secret.
Bien, on va continuer cette discussion. On va revenir un peu à vos débuts, Michel Plasson. Des débuts qui se passe un petit peu dans cette région Grand Est, puisqu'en 1962, vous remportez le concours de direction d'orchestre de Besançon, et Charles Munch, grand Strasbourgeois...
Oui, j'avais une admiration pour lui, mais je suis une vendange tardive, parce que j'étais musicien d'orchestre, et ma vie était... mon avenir était décidé de cette manière. Et puis, comme j'écoutais beaucoup de chefs d'orchestre... Pour certains, je voyais qu'il y a quelque chose se passait qui était inexplicable. Et puis d'autres, des choses ne passaient pas du tout. C'était aussi inexplicable, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais je voudrais essayer de faire ça. Et je suis une vendange tardive.
Alors, vous partez aux États-Unis
Oui, et malheureusement, je suis parti. J'avais demandé à Charles, j'avais une admiration pour Munch extraordinaire. C'était un magicien. C'était un magicien. On serait, quand on jouait pour lui, on serait mort pour lui faire plaisir. C'est quelque chose que je vous dis là. Et j'avais donc tellement d'admiration pour lui, et je lui ai demandé un jour, maître, est-ce que vous croyez que je peux aller à Tanglewood? Je ne parlais pas anglais, je ne parle toujours pas d'ailleurs, je suis constant dans mes faiblesses. Et j'ai demandé à Charles Munch, et il m'a dit, oh, tu veux vraiment y aller? Et alors j'ai compris à ce moment-là que c'était l'année où il n'était plus. C'était 64. C'est l'année où il n'était plus là. Et c'est d'ailleurs l'année où Pierre Monteux est mort. Il n'est pas venu, Pierre Monteux. Par contre, j'ai vu Stokowski, j'ai vu Bernstein, qui était un musicien fabuleux et inondé de dons extraordinaires, Bernstein, ce qui était... Et je suis allé là... c'était j'étais pas entouré, pas, j'étais vraiment démuni, quoi. La langue déjà, et le code, je ne connaissais pas les codes. Il y a des codes dans la vie, vous savez. Mm-hmm. Il faut les connaître. La vie vous apprend ça. Et la vie ne me l'avait pas encore appris. Et bon, ça s'est passé. Bien, j'ai appris beaucoup de choses. C'était le successeur de Munch, c'était un chef d'orchestre qui était très loin de Charles Munch dans l'idée musicale et tout ça. C'était une version germanique qui n'avait rien à faire avec Charles. Qui avait. Faut jamais oublier que Charles Munch, il avait commencé comme violon solo de Furtwängler. Furtwängler était un magicien d'orchestre incroyable, mais de sa musique, de la musique germanique. Et Munch a... J'ai compris après combien il était imprégné de la stature de Furtwängler. Voilà, puis après, j'ai commencé par être second chef à Metz, attendu qu'il n'avait pas de premier. On m'a fait signer un contrat de second. C'est l'école de l'humilité, ça. Et puis après, je suis allé à Toulouse et comme je suis obstiné, je voulais faire un orchestre aux couleurs de la musique de mon pays et aux couleurs de la musique que j'aime. Et voilà, je suis resté trop longtemps.
Et on va...
Non, mais on va parler de François René.
On va parler de François René. Mais vous m'avez dit une chose intéressante tout à l'heure. Vous m'avez dit, j'ai joué sous la direction de Pierre Monteux.
Oui, 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 oui. Ah, il était... Avec ses moustaches extraordinaires, il y avait une contradiction entre ses moustaches et ses cheveux. Il y a une chose qui était, je ne me rappelle plus laquelle, blanche et l'autre noire. C'était étonnant. Il avait une baguette très, très, très précise, pas du tout comme... Hélas, pas comme, heureusement pour lui, pas comme moi. Et il était très soigneux, comme il était à l'époque à l'orchestre de... San Francisco, je pense.
San Francisco, tout à fait.
C'est ça ?
Oui, oui.
Il
oui.
avait l'habitude américaine et tout, il était très soigneux. Je me rappelle, on faisait un concert à Paris avec une association, je ne me souviens plus de laquelle, et les musiciens, à midi, ont dit « Maître, la répétition est terminée, c'était la générale. » Il a dit « Si, c'est très bien, si la répétition est terminée, on se quitte là, il n'y aura pas de concert. » Alors ils ont accepté après. C'était un orchestre magnifique à l'époque. N'oubliez pas que les associations parisiennes étaient remarquables et que les orchestres français avaient la couleur de la France. Maintenant, vous ne pouvez plus trouver d'orchestre avec une couleur, hein, sauf Berlin et Wiener Philharmoniker peut-être. Mais tout le reste, c'est comme un hôtel Hilton. Peut-être les Russes, mais je ne les connais pas assez. Ils ont une technique très spéciale.
Vous citez dans un entretien avec Christophe Gristy, vous citez aussi Knappersbusch. Vous avez joué sous sa direction aussi.
Oui, bien sûr. Alors, je ne jouais pas, je venais écouter. Je crois que c'était l'orchestre de la Société des Concerts. Je venais écouter parce que c'est un petit colosse qui buvait des litres de bière la nuit qui est au Fouquet's. On lui en tenait pas rigueur à l'époque. Du Fouquet's, c'est de la bière. Et il arrivait le matin rouge, énorme. Il avait un son d'orchestre assez beau. Quand il se levait, ça, c'était la bombe atomique. Et il avait une autorité certaine. Mais il n'était pas méchant. Il y a eu d'autres chefs allemands ou viennois qui étaient méchants avec les Français. Il y en a eu un qui était spécialiste de Mozart, entre autres, qui était très célèbre, qui était très méchant.
Et Knappersbusch, la différence de Monteux, n'aimait pas les répétitions.
Non, il n'aimait pas ça. Charles Nutsch non plus.
Non plus.
Charles c'est... disait pas nécessaire. C'est, en fait, c'est... c'était nécessaire.
Est-ce que vous vous situez dans cette filiation de chefs qui sont des chefs de l'instinct et surtout des chefs
non,
de l'instant?
Non, mais j'aime bien répéter, j'ai besoin, puis en vieillissant, j'ai besoin de répéter, j'ai besoin de me rassurer. Mais je suis quand même un chef dangereux de l'instant, oui, ça c'est vrai.
Mais... Bon, on va écouter Pierre Monteux, si vous en êtes d'accord, on va écouter
dans
le...
quoi?
La Cour de Lys, extrait du Martyr de Saint-Sébastien, de Claude Debussy.
Et là, c'est ce qu'on a joué avec lui à cette époque.
Bon choix alors. La Cour des Lys, l'un des quatre fragments symphoniques du Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy, l'Orchestre symphonique de Londres, placé sous la direction de Pierre Monteux, un enregistrement du mois de mai 1963, réalisé donc quelques mois avant la mort de Pierre Monteux, qui fut l'ami de Stravinsky, de Ravel, de Debussy. Ce soir, maître, vous allez jouer le concerto pour la main gauche, vous allez interpréter le concerto pour la main gauche avec François-René Duchâble, et de François-René, vous dites que c'est la plus belle main gauche que vous ayez entendue.
Non, mais c'est pas seulement. Mais c'est, pour le concerto, ce concerto, j'en suis sûr, parce que il a un son extraordinaire, sa musicalité et sa comment dirais-je, sa, cette façon virile de quelqu'un qui sait gravir des montagnes, qui sait faire du vélo, qui connaît la vie profonde. Et c'est pas le pianiste dans l'opium, dans le mystère, c'est la vérité du son. Ça me gêne d'en parler devant lui. Mais la prochaine fois que vous voudrez me faire parler de François René, je vous en dirai beaucoup plus quand j'y serai pas là.
On lui demandera de se retirer pendant quelques minutes.
Voilà.
François René, vous avez rencontré Michel Plasson il y a combien de temps ?
Eh bien, il y a une histoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, Michel. J'étais venu remplacer Martha Argerich une fois dans un concerto de Rachmaninov, à l'époque où la halle au grain n'avait pas été restaurée et il y avait des rideaux, des courants d'air. Ce qui m'a frappé cette soirée-là, surtout, c'est d'écouter la symphonie fantastique dans les cintres, à la deuxième partie. C'est mon régal dans tous les concerts d'orchestre. Ce ne sera pas le cas ce soir, puisque la symphonie du Tilleul sera avant Ravel, dont je me concentrerai quand même un petit peu dans la loge. Mais j'en ai profité à la répétition, cette magnifique symphonie, le double. Et bien là, je suis passé sans doute inaperçu pour toi. J'ai peut-être mal joué ce jour-là. Et bref, c'était en 77 ou 18. Et on s'est retrouvés seulement dans les années 90. Parce qu'un ami commun t'avait parlé de moi, jouant les Beethoven en Allemagne, notre cher Nicolas Carcanrat. Mais finalement, il faut dire aussi que j'étais dans l'écurie Erato à l'époque, et j'enregistrais plus souvent avec Lombard et Strasbourg. Et toi, tu avais l'écurie des pianistes EMI, c'est-à-dire Ciccolini, Tacchino, Collard, etc. Et puis donc, on s'est retrouvés, c'est en partir de 90 qu'on a un peu collaboré dans des concerts. Troisième concerto de Beethoven, tourné en Allemagne avec un concerto de Ravel, je me souviens, et Schumann plutôt. Ravel était joué dans la même tournée par Hélène Grimaud. On a enregistré les deux Chopin et les deux Ravel, ainsi que la fantaisie. Voilà. Alors Schumann, on l'a enregistré pour une firme, on va dire, privée, liée à Bayer. C'était mon dernier concert. Je tenais à ce que ce dernier concert en Allemagne, justement, soit un peu comme Rubinstein à la halle au grain. Lorsque tu l'as accompagné pour son dernier concert.
Oui.
Voilà. Et là, d'ailleurs, j'envisage une fin définitive de carrière sur scène, même si ma carrière n'a rien à voir avec celle que j'ai faite pendant 30 ans. Donc là, j'ai encore un an et j'arrêterai définitivement la scène, y compris dans toutes mes formules avec comédiens, circassiens, club de natation synchronisé, poésie, projection, feu d'artifice, etc. Donc j'arrête en juillet l'année prochaine. Et là, j'aurai un concert. Je vais te faire une infidélité, mais ça n'est pas avec l'Orchestre de Toulouse. C'est avec certains musiciens de l'Orchestre de Toulouse, à la halle au grain. Un concerto de Schumann qui est programmé fin juin. Mais là, c'est encore un concert caritatif, un petit peu en dehors des... tout à fait en dehors des abonnements. Et, voilà. Et ce sera un peu un retour vers ce souvenir de Rubinstein. Il y a une très belle photo. On le voit partir de scène en 77, je crois, quelque chose comme ça, 76, 10, 61. Le son dernier concert avec orchestre.
17 ou 18.
Ou 18, ouais. 18, voilà. Enfin, voilà. Donc c'est...
On revient un peu au concerto pour la main gauche. Est-ce que vous n'estimez pas, tous les deux d'ailleurs, que ce concerto et la valse de Ravel ont une dimension politique et que cette œuvre, ces deux œuvres, résonnent de manière tout à fait particulière en ces temps extrêmement troubles pour la paix mondiale ? Michel Plasson.
Je trouve jamais de sens politique véritable avec la musique parce que le mot politique ne me rapproche pas de la musique. C'est un autre monde. La musique n'a pas de définition politique. On lui greffe des définitions politiques, mais elle n'en a pas. On utilise.
Ravel était un homme engagé. Marcel Marna, par exemple, dans sa biographie, met en évidence l'engagement de Ravel. C'était un homme de gauche.
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme de gauche. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme de droite. Je sais ce que c'est qu'un musicien. Non, mais si vous savez, Ravel, d'abord, Ravel n'est pas un homme de maintenant. Sa musique est de maintenant, est éternelle. Mais lui, il n'est pas de maintenant. Il est mort en 37. Bon, on pouvait être de gauche, de droite, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. Par contre, c'est vrai que les musiciens français et les musiciens allemands, surtout après la Première Guerre mondiale, après 70, on dit chacun des bêtises énormes de Bussy. Puis je raconte toujours l'histoire de Strauss. Romain Rolland, qui était très ami avec Strauss, il dit à Strauss, viens écouter Pelléas, justement. C'est une œuvre extraordinaire. Le Strauss, il peut imaginer qu'il y ait une œuvre extraordinaire écrite par un Français. Il est venu avec Romain Rolland, ils étaient au deuxième rang, et au bout de cinq minutes, il a dit avec sa voix énorme, « Est-ce que c'est comme ça jusqu'à la fin ?» Alors, stupeur dans les rangs, et surtout chez Rolland, et il ajoute, « J'entends bien que c'est très délicat, mais il n'y a pas de musique là-dedans. Comment un grand musicien, comme Strauss, qui savait l'orchestre comme personne au monde, à sa manière, mais d'une façon tellement extraordinaire, ne trouvait pas de musique là-dedans. Debussy a écrit, il nous vient d'Outre-Rhin, des monstres pneumatiques. Voilà, c'est tout. Il y avait une... Mais il n'empêche quand même que c'est pas seulement politique et nationaliste. Je crois que quand même, Strauss le pensait quand même. Il était assez content de le dire, mais il le pensait vraiment. Il n'y a pas de musique là-dedans.
François René.
Oui, alors moi, je ne suis pas engagé politiquement, mais qui ai quand même des options. Je dirais quand même que dans les concertos, dans ce concerto, pas plus que dans le concerto en sol, oui, dont le second mouvement est néoclassique, un hommage, oui, aux quintettes, clarinettes, oui, de Mozart, dont le premier mouvement est une sorte de fantaisie, dont le final est un, oui, petit rebondissement avec des évocations de jazz. Donc, laissons le sol majeur, mais pour le concerto pour la main gauche, pour moi, c'est une évidence, ainsi que la valse, d'ailleurs, il y a un
bien
commentaire
sûr
avec Abba, que c'est le reflet de l'effondrement de l'ancienne Europe, de l'Empire austro-hongrois. Le carnage de la guerre de 14 est passé par là. Ce magma terrifiant du tutti, de l'introduction du concerto, les cadences qui sont comme des cris individuels de l'homme qui crie, la grande tendresse qui suit et qui amène à cette danse diabolique. Cette danse diabolique, c'est le monde mécanique. C'est sans doute ce que Ravel a vécu comme brancardier en entendant le bruit des chenilles, des chars, etc. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il est dédié à Wittgenstein, pianiste autrichien qui a perdu son bras, non loin de là où Ravel faisait le brancardier, finalement, ils étaient chacun dans un bord différent, bien sûr, pendant la guerre. Et ce qui est assez drôle, c'est que Wittgenstein a commandé ce concerto à Ravel, et je crois qu'il l'a trouvé trop difficile.
Il l'a jamais joué, je crois.
Même pas, je crois qu'il y a un enregistrement, il me semble l'avoir écouté, un enregistrement de lui dans des collectionneurs, oui, sur 78 tours, mais où il ne joue pas toutes les notes.
Voilà, vraiment. C'est ça.
Mais il a commandé également des concertos que,
À
Britten, à Strauss, oui, Prokofiev, enfin d'autres, etc. Et alors, pour moi, je me souviens avoir joué à la Scala de Milan. C'est un grand souvenir de ma vie. Le jour de mon anniversaire, 22 avril 2002, je crois, quelques semaines avant de jouer ici, avec toi, avec Michel, donc, à l'orchestre de la Scala. Et il y avait une interview pour la télévision italienne, télévision privée, comme ça, que vous avez filmé. Et il me dit, que représente pour vous ce concerto ? Donc, je leur ai dit, pour moi, bien sûr, la guerre de 14, l'effondrement d'un monde. Et comme c'était six mois après les deux tours du 11 septembre, j'ai même décrit la chute des deux tours dans deux glissandi, dans deux chutes musicales. Bon, ils ont compris ou n'ont pas compris, mais pour moi, c'était évident qu'étant imprégné de ces images six mois avant, c'était pour moi la représentation presque descriptive de la fin d'un monde. Mais alors de dire qu'il y a un engagement politique, bon, Ravel était de gauche, peut-être par tradition familiale, mais il vivait, comme beaucoup de gens de gauche, comme un petit bourgeois tranquille dans sa maison de Montfort-l'Amaury. Il n'était pas vraiment engagé, si ce n'est par sympathie, peut-être pour des amis. On peut dire que tout est politique et rien n'est politique.
Absolument.
Ça dépend de
la distinguo quand même entre la... entre le concerto pour la main gauche et la valse.
Et la valse, oui.
Parce que ça, c'est pas du tout la même chose. La valse, c'est pas du tout ce qu'on croit. Alors là, c'est pas dans la définition même, parce que les gens, je sais même pas si Ravel a écrit quelque chose là-dessus, c'est comme une parodie d'une valse viennoise.
Oui.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un poème symphonique dramatique. C'est si sol si la ré, la fin de la valse, c'est collapse. ces collapses avec l'accelerando, le stringendo qui a,
obsessionnel. Qui
a, c'est pas du tout ça n'a rien à faire avec une valse Strauss.
Non, mais justement, ça se rapproche de l'effondrement.
C'est un drame humain.
C'est un drame humain, mais c'est le drame de l'Autriche.
C'est un drame humain.
Il faut entendre Charles Munch faire répéter cette valse avec l'orchestre de Boston où il crie, il demande à ses musiciens de comprendre toute cette horreur et de cette violence de cette musique.
Oui.
On vous écoute un petit peu, François René, dans le début du concerto pour la main gauche, et bien sûr vous êtes en compagnie de Michel Plasson.
Thank you.
un court extrait du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, François-René Duchâble, l'orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, un enregistrement du mois de septembre 1995, concerto qui sera donc au programme du concert d'ouverture de ce festival de Colmar, ce soir à 21h. Michel Plasson, on va arriver au terme de cet entretien. J'aimerais que l'on revienne un petit peu à Péléas et Mélisande de Claude Debussy, parce que vous avez raconté à Christophe Gristy une anecdote que je trouve particulièrement intéressante.
Non, c'est pas... Oui, j'ai raconté à Christophe ça. À mon âge, je commence à répéter toujours les mêmes histoires. Mais celle-là me tenait particulièrement à cœur parce que Debussy jouait. Jouait Péléas devant des amis. Il y avait Chausson, il y avait Leroll, il y avait tous ses copains. Et pas seulement d'ailleurs, et avec sa voix de fossé, il chantait, il jouait son chef-d'œuvre. Et après, il y a une discussion qui s'engage sur la musique, et il y a une ou deux personnes qui parlent sévèrement de Jean-Sébastien Bach. Et Debussy, curieusement, s'est mis dans une colère infernale et a dit : Monsieur, c'est celui qui parlait de Bach, monsieur. Je jouerai Péléas devant Brahms, devant Beethoven, devant Mozart, devant qui vous voulez, mais je ne jouerai pas Péléas devant Bach, monsieur, parce que Bach, monsieur, c'est Dieu, il a claqué la porte et il est parti. C'est très intéressant parce que ça situe beaucoup de choses là-dedans. Lui qui était agnostique, et qui paraît-il, vous savez, hein, l'agnostique, les athées, les politiques, la droite, la gauche, c'est pour ça que je n'aime pas donner ces noms-là, parce que j'ai un grand ami écrivain qui a écrit la plus belle histoire de la littérature française, qui était Kléber Hédens, et il a écrit des choses extraordinaires sur les grands auteurs français, et il a écrit sur Voltaire cette chose extraordinaire. Insolent avec l'Église, prudent avec Dieu.
C'est merveilleux.
C'est beau, ça.
Est-ce que vous avez dirigé les Passions de Bach,
oui,
de la Messe en Si ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai dirigé la Saint-Jean et Saint-Mathieu.
Est-ce que le chef d'orchestre est tétanisé devant de telles partitions ?
Moi, j'ai été tétanisé sur la tombe de Jean-Sébastien Bach, parce que j'étais à Leipzig à ce moment-là, dans le régime terrible, qui a laissé tant de marques, de malheurs, avec ceux qui étaient les promoteurs des intellectuels français. Et j'étais seul dans la Saint-Thomas, parce qu'on n'allait pas à l'église. Là. D'abord, il y avait la KGB qui était là à côté, mais moi, je m'en foutais du KGB, je suis entré, j'ai pleuré sur la tombe de Bach, parce que quand même, non, mais ça, je comprends très bien ce qu'a dit Debussy. Et il avait raison de le dire. Munch a dit aussi une chose extraordinaire, mais dans un autre domaine. Une femme américaine qui lui disait « En maître, vous savez, je n'aime pas du tout Berlioz. » Et Munch, qui avait des yeux extraordinaires, bleus, a posé sa main sur son épaule et lui a dit « Ça n'a pas d'importance.
» Bonne anecdote.
C'est le bon sens. C'est tellement vrai. Même si c'était un sponsor.
Aujourd'hui, vous préservez cet héritage de la musique française, vous le défendez ardemment, et vous avez créé une académie internationale de musique française chez vous, dans le sud de la France.
Dans ma maison, qui est une très grande propriété, très jolie, et avec beaucoup de chambres, et bien tous les ans, j'ai fait une académie où on accueille des jeunes chanteurs et chanteuses de tous les pays du monde qui sont auditionnés par des disques et par des CV. On en prend une dizaine par année et ils sont logés, nourris, enseignés gratuitement. C'est pas mal. Hein.
Avec une belle équipe de professeurs.
Avec José Van Damme, Sophie Coche, Nathalie Dessay, Roberto Alagna viendra. Cette année, Nadine Denise, des grands chanteurs qui parce que je suis effaré d'entendre, de ne rien comprendre. Les chanteurs étrangers, c'est un peu normal, ils chantent en vol à puque, comme disait le général de Gaulle, mais les autres aussi, hein, on ne comprend rien, puis le style français. Vous savez, la musique française, il faudra en parler très longtemps, parce que c'est la plus fragile du monde. Interprétée plus ou moins bien, elle n'existe plus, c'est de la cendre. Personne ne peut tuer Wagner, je dirais hélas. Comme Gide, comme je lui disais, quel est le plus grand auteur français ? Il avait dit Hugo, hélas. À Wagner, personne ne peut le tuer. Vous faites diriger un mauvais chef, un bon. C'est seulement s'il est très bon, si c'est M. von Karajan, ça devient quelque chose d'autre. Mais si c'est moyen, la musique, Strauss aussi, sa musique résiste toujours. Mais si vous faites diriger Pelléas par quelqu'un avec un orchestre qui ne connaît pas, qui ne sait pas s'approcher du mystère, du son, des couleurs du son, enfin bref.
François René, est-ce qu'il y a une œuvre concertante que vous auriez aimé jouer avec Michel Plesson ?
Je ne m'attendais pas à cette question. On a joué beaucoup de répertoires. On a joué Chopin, on a joué 3e et 5e de Beethoven, donc je me souviens, Schumann, grand souvenir, donc Ravel les deux. On a fait même Tchaïkovski, chez Bayer. Grieg, je n'ai jamais vécu le Grieg, pour lequel j'ai une tendresse particulière. C'est le premier concerto que j'ai joué en 1966, j'avais 14 ans. Oui, pourquoi pas, Grieg, oui. Saint-Saëns, on n'a pas fait Saint-Saëns ensemble, oui, pourquoi pas. On a fait Liszt une fois, je crois, enfin voilà. Non, il y a toujours des regrets, mais pour ne pas vivre, il y en a. Les Saint-Saëns, je les ai enregistrés, mais avec ton collègue, Alain Lombard, en 80. C'était différent, voilà. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mystère, c'est écouter les chefs dans les symphonies, comme la symphonie du Tilleul ce soir, dans leur travail, où ils sont très engagés dans un vrai projet musical, plutôt que de dialoguer avec tel ou tel chef. Après, il y a la relation amicale, le bonheur, on se sent mieux avec l'un plutôt qu'avec un autre. Mais quelquefois, quand on est moins confortable, on donne plus de soi-même. Et il y a des chefs qui sont sévères, pas forcément souriant, exigeant, impressionnant, etc., m'ont obligé à donner plus de moi-même. Je pense par exemple à Janowski, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'expériences musicales, très nombreuses, qui est plutôt assez froid, assez sec. Eh bien, on est toujours poussé à mériter son estime. Donc, on va donner plus. Il n'est pas forcément très bon d'être rassuré par des liens trop proches. Alors moi, je suis ici, bon, c'est un bonheur évidemment de retrouver cette alchimie musicale dans ce répertoire que nous adorons tous les deux, puis avec des Russes qui jouent un Ravel, on va dire, assez épais, assez riche.
Et ils jouent à leur manière, à leur école, voilà. Ils ont conservé l'école.
Mais ça marche quand même, ça marche.
Vladimir Spivakov a fait un orchestre excellent, excellent. N'oubliez pas que cet orchestre va faire 9 concerts en peu de jours, avec des programmes complètement différents. C'est quasiment un tour de force, là, et que nous n'avons presque pas eu le temps de répéter suffisamment, ni la damnation, ni la... Et pour notre séjour à tous en Alsace, je voudrais dire un mot sur votre merveilleuse région. C'est que je suis particulièrement indigné, je suis toujours indigné même à mon âge, qu'on est dans la carte de France, dans les régions, on a simplement soustrait le mot le plus représentatif de l'Europe et de la France, c'est le mot Alsace. On ne peut pas dire Champagne, Lorraine, Occitanie, on s'en fout. Si Alsace n'existe pas, alors là je ne comprends pas. Et les Allemands ne le comprendraient pas non plus, d'ailleurs. Le mot Alsace, hein, c'est quelque chose. Mais peut-être le président de la République, j'espère, s'intéressera beaucoup à la musique et au mot Alsace aussi.
Bien.
Le Grand Est, c'est pas très beau, oui.
On va se quitter avec une pièce de Ravel. Et ça, c'est un des grands souvenirs vécus par moi-même lors d'un de vos concerts avec le Capitole, ici même. C'était en bis, vous aviez donné le Jardin féerique de Maurice Ravel, et vous l'aviez dédié à la mémoire de nos chers disparus. Alors aujourd'hui, bien, si vous en êtes d'accord, on va le dédier à une grande dame dont on a célébré les obsèques ce matin, c'était Simone Veil. Le jardin féerique extrait de Ma mère Loi de Maurice Ravel, l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la baguette de Michel Plasson. Je vous rappelle le concert d'ouverture de ce festival 29e édition, ce soir à 21h, l'Orchestre National Philharmonique de Russie, Michel Plasson, François-René Duchâble, un programme Dutilleux et Maurice Ravel, de Maurice Ravel, le concerto pour la main gauche dont on a parlé, mais aussi le boléro. Demain, on se retrouve en compagnie de Fanny Clamagirand et d'Alexandre Kantorov. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Bon festival à toutes et à tous.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.